Bonjour, aujourd'hui le premier défenseur des Indiens d'Amérique, Bartolomé de Las Casas.
Le Christ a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups pour que vous les apprivoisiez. Pourquoi donc, au lieu d'envoyer des brebis, envoyez-vous des loups affamés qui massacrent et épouvantent les brebis? Bartolomé de Las Casas, 1531.
Quand on a commémoré il y a 10 ans le 500e anniversaire du voyage de Christophe Colomb, on a oublié les ravages provoqués par la découverte et la colonisation de l'Amérique. L'aspect le plus sinistre de la conquête d'un continent dont la population a été exploitée et décimée par les conquistadors. Personne ne pouvait pourtant ignorer que dès le début du XVIe siècle, un Dominicain venu en Amérique 10 ans après Colomb, le premier à avoir été ordonné prêtre dans ce que les Espagnols appelaient encore les Indes, fut aussi le premier à révéler et à dénoncer les excès de la colonisation. Nommé protecteur des Indiens, puis évêque du Chiapas au Mexique, violemment attaqué par les conquistadors, Bartolomé de Las Casas a défendu pendant 50 ans les Indiens d'Amérique contre la violence des premiers conquérants du Nouveau Monde.
Nous avons réuni ici, à Valladolid, quelques témoins et participants, et tout d'abord le très illustre frère Bartolomé de Las Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois prit la défense de ces indigènes. Frère Bartolomé, vous avez la parole.
Éminence, depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Notre Seigneur Jésus a dit, je suis la vérité et la vie. Je vais m'efforcer de dire la vérité sur ceux à qui nous sommes en train d'enlever la vie.
Jean-Marie Saint-Luc, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était un extrait du très beau film de Jean-Daniel Verrègue, La controverse de Valladolid. Nous parlerons de cette controverse dans quelques instants. Là, on vient d'entendre Bartolomé de Las Casas prenant la défense des Indiens contre ses compatriotes espagnols. C'est un discours quand même très courageux pour l'époque. C'est assez stupéfiant d'entendre un discours comme celui-là, qui est très actuel. Et on a du mal à imaginer, au fond, il y a 500 ans, quelqu'un dénonçant déjà la colonisation. Est-ce qu'on peut dire que Las Casas est, au fond, en quelque sorte, le premier anticolonialiste de l'histoire?
On peut le dire comme ça, bien entendu, à condition de ne pas oublier que son attitude répond d'abord à son propre tempérament, pour qui le porte à la compassion pour les souffrances des autres, mais aussi à la vision spirituelle et théologique qu'il a, évidemment, de la conquête.
Alors, cette défense des Indiens par Las Casas, on la retrouve dans presque tous ses livres, dont L'histoire des Indes, dont Le Seuil vient de publier la première traduction en français, je crois, 500 ans après que ça a été
non seulement en français, mais dans n'importe quelle autre langue. C'est la première parution hors d'Espagne.
Alors, c'est vous qui avez traduit ce livre, effectivement. Vous l'avez préfacé aussi. Alors, c'est quand même l'histoire des Indes.
Excusez-moi, je ne l'ai pas préfacé. La préface appartient à l'édition originale en espagnol. Elle est signée du professeur André Saint-Luc.
Ah, d'accord. Bon. Je croyais qu'il y avait un petit mot de vous au début.
Oui, un avertissement des traducteurs que l'on fait toujours.
Alors, cette histoire des Indes, c'est l'histoire de la conquête de l'Amérique à laquelle Las Casas a participé. Il est arrivé dès le début de la colonisation.
Voilà, et c'est ce qui est tout à fait intéressant chez cet homme, c'est qu'il a décrit absolument tout le panorama, hein, il a couvert tout le panorama de l'histoire de ce siècle en Amérique, c'est-à-dire qu'il part comme conquistador, comme colon, et petit à petit, il se rend compte des réalités de la conquête et de la première colonisation, et il change d'attitude pour devenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et très officiellement d'ailleurs, puisque c'est son titre officiel, le défenseur des Indiens.
Alors, il est né en 1484, il arrive en Amérique en 1502, à Hispaniola, l'île de Haïti. Son père, d'ailleurs, lui-même, a fait, je crois, la deuxième traversée de Colomb.
Hein,
Mais alors, il arrive, lui, comme colonisateur, son
Absolument.
Père, comme lui. Hein, il faut peut-être rappeler, avant qu'on voit comment il va dénoncer la colonisation, comment ça fonctionnait. D'abord, il faut rappeler une chose qu'on oublie souvent, c'est que la colonisation, la découverte de la colonisation d'Amérique, c'était une affaire privée. La couronne d'Espagne donnait l'autorisation, mais elle ne prenait pas beaucoup de risques.
Pour une raison très simple, c'est qu'elle n'avait pas d'argent. C'était la fin de la reconquête du territoire espagnol sur les Maures, et que les caisses étaient absolument vides, et que c'était quand même un projet fort hasardeux, et que s'il n'y avait pas eu effectivement des financiers privés, on en serait resté là. Mais bien sûr, c'est quand même le centralisme espagnol, et on ne peut pas, de son propre chef, partir. Il faut une autorisation, bien sûr.
Alors, ce qu'on appelait la capitale capitulation, je crois, l'autorisation.
Voilà, les capitulations.
En échange de quoi la couronne d'Espagne recevait le quin royal, hein, je crois, oui, que c'est le cinquième des produits que l'on pouvait ramener de là-bas. Mais alors surtout, là-bas, comment s'installent ces colons? Je crois que on répartissait les Indiens entre eux, on leur donnait une exploitation agricole ou minière, c'est ce qu'on appelle l'encomendia.
L'encomienda. Alors oui, ça, ou, qui porte un autre nom aussi, qui est le repartimiento. Hein, c'est exactement la même chose. Peut-être faut-il préciser le sens de ces deux mots. Le deuxième repartimiento est plus concret. On répartit les Indiens, un certain nombre d'Indiens, entre les différents colons, conquistadors, les chefs surtout, pour les récompenser des services rendus. Et l'encomienda vient du verbe qui veut dire en espagnol confier. C'est-à-dire que, très hypocritement, on confie au conquérant espagnol un certain nombre d'Indiens, à charge pour lui de les éduquer, surtout de les évangéliser, de les baptiser, en échange de quoi ces malheureux Indiens lui rendront quelques menus services. Mais bien entendu, on devine tout de suite quelles sont les dérives immédiates hein, de ce système. Et c'est un fait que Las Casas, après avoir été lui-même encomendero, et d'après les témoignages, un bon, c'est-à-dire que c'était un, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un bon patron, hein, très humain, très vite renoncé à sa propre encomienda et ensuite a passé le reste de sa vie à essayer de faire abolir l'encomienda, d'autant plus que, avec d'autant plus de virulence que le vœu le plus cher et permanent des conquistadors, c'était de la pérenniser, qu'elle devienne héréditaire, l'encomienda.
Il va défendre les Indiens en tant que prêtre. Hein. Il est ordonné en 1512, je crois, 10 ans après
son
arrivée. C'est le premier prêtre ordonné
Il n'a pas été ordonné au Nouveau Monde. C'est le premier à avoir dit sa première messe dans le Nouveau Monde. Hein. Enfin bon, ça c'est un détail anecdotique, mais c'est vrai que il embrasse très vite la carrière religieuse.
Et puis il est très vite scandalisé par ce qu'il a vu dans les colonies espagnoles d'Amérique. On écoute un autre extrait de la controverse de Valladolid, Jean-Pierre Mariel dans le rôle de Las Casas.
Tout ce que j'ai vu, je l'ai vu se faire au nom du Christ. J'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour panser leurs propres blessures. Vivants, je l'ai vu. J'ai vu à Cuba, dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols faire halte dans le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres, puis ils s'avancèrent vers un village et dirent « Tiens, si on essayait le tranchant de nos armes ». Un premier Espagnol tira son épée, les autres en firent autant. Et ils se mirent à éventrer à l'aveuglette tous les habitants qui étaient assis bien tranquilles. Tous massacrés, le sang ruisselait de partout.
Vous étiez présent ?
J'étais le Romonier.
Jean-Marie Saint-Luc, oui. Ce massacre de Caonao à Cuba, il y a assisté, effectivement.
Absolument, bien sûr.
C'est exagéré, parce que ce film, les livres d'ailleurs de Las Casas eux-mêmes racontent vraiment des horreurs.
Oui, alors d'abord, ces horreurs sont en grande partie des vérités. Hein. Il est témoin de premier regard, et aussi, ce qu'on oublie un peu trop, c'est qu'il n'est pas le seul à les raconter. Même les autres chroniqueurs, avec pas du tout la même perspective que lui, parlent des horaires. Cortés lui-même écrit tout tranquillement qu'il a fait couper la main à je ne sais combien d'Indiens parce qu'ils n'avaient pas obéi à ce qu'ils voulaient. Et donc, ces horreurs existent vraiment. Ce qu'il y a, c'est que l'histoire des Indes, et en particulier son excroissance, la très brève relation, qui est beaucoup plus connue, c'est un livre de polémique, c'est un livre de combat. Hein, c'est un livre qui est un peu paradoxal parce qu'il se veut à la fois une œuvre objective d'historien, reposant sur des témoignages vécus et des analyses de documents très très fouillées, très précises, mais aussi il veut démontrer quelque chose et obtenir quelque chose. Alors on ne peut pas s'étonner si l'hyperbole est la figure rhétorique la plus fréquente dans cette.
Faut rappeler Jean-Marie Saint-Luc, c'est pas le premier à prendre la défense des Indiens. Il y a un prêtre également dominicain, je crois aussi, qui très tôt avait déjà pris la défense des Indiens. Il s'appelait Montesinos,
oui,
on n'en parle pas beaucoup.
En 1511, effectivement, il y avait une très petite communauté de Dominicains à Hispaniola et qui étaient déjà les premiers témoins de ces mauvais traitements infligés aux Indiens et qui, dans un sermon très célèbre, qui a été prononcé par Montesinos parce que c'était son tour de le prononcer, mais qui était vraiment l'œuvre de toute la communauté, il y a eu cette première accusation donc contre les conquistadors, en fait. Donc, tout à l'heure, vous disiez que c'était le premier défenseur des Indiens, mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Hein, les premiers dominicains qui étaient là, évidemment, évidemment, c'est pour cette raison qu'il deviendra dominicain plus tard, entre autres.
Alors, en tout cas, c'est pour cette raison qu'il va quitter l'Amérique pour aller défendre les Indiens là où se décident les choses, c'est-à-dire en Espagne. Il va participer, je crois, au Conseil des Indes. Il va trouver plutôt une oreille bienveillante de la part, d'abord, du roi d'Espagne, Ferdinand, après la mort de Isabelle la catholique. Isabelle, d'ailleurs, qui avait interdit, je crois, l'esclavage en Amérique.
Absolument. Hein. Oui. Hein.
Donc, Ferdinand, il va y avoir ensuite le régent, le cardinal Cisneros, il y aura plus tard Charles Quint. Qu'est-ce qu'il propose à ces gens-là,
Escasas? Il propose de transformer, enfin grosso modo, hein, parce que c'est très compliqué, de transformer la conquête brutale et la spoliation des Indiens par une véritable colonisation. C'est-à-dire, même un peu plus tard, il proposera de faire venir ce qu'on appelle des laboureurs espagnols, au fait des techniques, parce que c'est vrai que les Indiens, de ce point de vue-là, sont pas très développés, pour fonder des communautés de véritable colonisation de la terre et pour renoncer à tout ce qui constitue évidemment ces exactions qui sont évidemment dues à l'or, à la soif de l'or des Espagnols.
En fait, il veut créer des exploitations modèles. Je crois d'ailleurs qu'il va en créer une lui-même. Il repart en Amérique. Oui. Il va en créer une au Venezuela, hein, c'est ça?
Oui, ce sera un échec. Et puis, il est peut-être pas très doué pour ça. Et surtout, il y a de telles réticences sur place. Les conditions ne sont pas réunies. Toute sa vie, il aura voulu fonder quelque chose, des territoires dont l'entrée serait strictement interdite aux Espagnols, mais les Espagnols rentrent quand même, bien sûr, parce que c'est trop facile. Et ce sont une des raisons qui expliquent l'échec de ces. Et puis bon, il faut dire qu'il est peut-être pas, il était peut-être pas très doué du sens pratique non plus.
En tout cas, il revient en Espagne où il va rester pendant 10 ans. Il renonce, il devient dominicain à ce moment-là. Il est simplement prêtre. Il rentre chez les dominicains, il cesse toutes les activités temporelles et il se met à écrire. Enfin,
il se met d'abord à étudier. Il étudie beaucoup parce que c'est un homme qui est conscient de l'énormité de la tâche qui l'attend, de l'énormité des montagnes qu'il a à battre, et il sent qu'il n'a pas les moyens pour le faire. Donc il va s'enfermer effectivement dans ses cellules de moine pour étudier et tout particulièrement la théologie et aussi le droit. Mmh. Il devient vraiment un des plus grands juristes de son temps, ce qui lui permet de répondre à des gens comme Sepúlveda un peu plus tard.
On le verra. Alors donc, il écrit des livres importants, hein, l'histoire des Indes, c'est en 3 volumes au seuil, là, qui vient donc d'être traduit pour la première fois, sous votre autorité. Et puis alors, en 1552, un autre livre, plus célèbre, je crois encore, La très brève relation de la destruction des Indes, parcouru pour nous par Stéphanie Duncan, la revue de texte.
Oui, en 1552, Las Casas marque un grand coup, hein. Il fait publier à Séville, sans licence, cette très brève relation de la destruction des Indes, qui est un réquisitoire extrêmement virulent contre les conquistadors et un catalogue de toutes les horreurs qu'ils ont commises en Amérique. Alors, comme le titre l'indique, Las Casas n'hésite pas à parler de destruction des Indes. Et comme le titre l'indique aussi, le livre est volontairement court afin de frapper les esprits et d'atteindre un large public. Alors, première idée développée par Las Casas dans ce livre, les Indiens avant 1492 vivaient heureux et nombreux dans une sorte de paradis terrestre, un peu à l'image du Christ. Tous ces peuples, écrit Las Casas, Dieu les a créés extrêmement simples, sans méchanceté ni duplicité. Ils sont les plus humbles, les plus patients, les plus pacifiques et tranquilles qui soient au monde. Et, ajoute Las Casas, ils ont l'entendement clair, sain et vif et sont très aptes à recevoir notre sainte foi catholique. Et là, soudain, arrive la catastrophe de 1492. C'est chez ces tendres brebis, écrit Las Casas, que les Espagnols sont entrés comme des loups, des tigres ou des lions très cruels. Depuis 40 ans, et aujourd'hui encore, ils ne font que les mettre en pièces, les tuer, les inquiéter, les affliger, les tourmenter, et les détruire par des cruautés étranges, nouvelles, variées, jamais vues, ni lues, ni entendues. Et là, Las Casas insiste bien, hein, sur le caractère inédit de cette destruction, dans sa cruauté, mais aussi par son échelle. Au cours de ces 40 ans, constate Las Casas, plus de 12 millions d'âmes, hommes, femmes et enfants sont morts injustement à cause de la tyrannie et des œuvres infernales des chrétiens. Les œuvres infernales des chrétiens, là, Las Casas va très loin. Il ose associer enfer et christianisme alors que tout à l'heure, il comparait les Indiens aux brebis du Christ. Alors je suppose que si Las Casas avait connu ce mot, il aurait parlé de génocide. Il écrit en effet que ceux qui sont allés là-bas ont voulu extirper et rayer de la face de la terre ces malheureuses nations. Et tout cela dans quelle vue ? Si les chrétiens ont tué et détruit tant et tant d'âmes, affirme Las Casas, c'est seulement dans le but d'avoir de l'or, à cause de leur cupidité et de leur ambition insatiable, et parce que ces terres étaient heureuses et riches, et ces gens si humbles et si facilement soumis, ils n'ont eu pour eux ni respect, ni considération, ni estime, et ils les ont traités, je ne dis pas comme des bêtes, mais pire que des bêtes, et moins que du fumier.
Quel réquisitoire, Jean-Marie Saint-Luc, c'est extraordinaire, de dénoncer comme ça une conquête qui se fait au nom du christianisme, lui qui est prêtre.
Eh oui, parce qu'on peut la faire au nom du christianisme et se saisir de cela comme un alibi, ce qui est bien entendu le gros problème de la conquête pour Las Casas, c'est l'or, hein, c'est la soif de l'or, la cupidité. Vous remarquerez dans la lecture que vous avez faite, et c'est le cas à peu près partout, qu'il ne parle pratiquement jamais d'espagnol, enfin si, il dit espagnol, mais surtout il emploie le mot chrétien, pour bien montrer, il oppose les indiens aux chrétiens, et non pas aux espagnols, pour bien montrer que l'attitude des chrétiens n'est pas ce qu'elle devrait être. Et c'est vrai que, l'extermination des Indiens, bon, même si on ne tient pas trop compte de l'hyperbole des chiffres, d'abord il a bien vu lui-même que très vite il n'y a plus un seul Indien dans les îles, même s'ils ne sont pas tous morts à cause des exactions des Espagnols, bien entendu. Il faut savoir aussi que des études assez récentes de l'université de Berkeley, si je ne me trompe pas, ont montré que la population exterminée, le chiffre n'est pas très très éloigné de celui que cite Las Casas.
500 ans.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, cela dit, on aurait pu comprendre, et il a dressé contre lui, évidemment, les colons, hein, qui vivent grâce à cette exploitation des Indiens. En revanche, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que malgré ce réquisitoire, il obtient plutôt le soutien de la monarchie, hein, de Charles Quint, et même de l'Église. C'est assez étonnant. Charles Quint qui va justement interdire ou essayer d'empêcher d'arrêter le système des encomiendas par ce qu'on appelle les lois nouvelles.
C'est ça. Et autant dire tout de suite, ce sera un échec constant parce que, selon l'adage espagnol bien connu, on respecte la loi, mais on ne l'applique pas. Hein, ça, c'est de tout temps. Bon, il faut pas oublier, pour le rôle de l'Église, que la conquête de l'Amérique, c'est aussi une entreprise spirituelle qui a été cautionnée par Alexandre VI, dont on ne sait peut-être pas que, même s'il s'appelle Borgia, en fait, c'est Borja et que c'est un espagnol. Et ceci explique peut-être cela. Et que le but premier de la conquête, c'est bien l'évangélisation de l'Amérique. Cela, et on peut rattacher à cela toute la vision messianique, même eschatologique, hein, de gens comme Colomb. Colomb est persuadé de cela, et Las Casas aussi, que selon le précepte du Christ, aller enseigner toutes les nations, pour que l'Église devienne vraiment catholique, ce qui veut dire universelle, je le rappelle, il faut que la terre entière soit évangélisée. Et c'est la tâche première des Espagnols. En échange de quoi, ils pourront recevoir, en paiement de leurs efforts, l'aide des petits travaux, mais en tout cas jamais ce qu'ils font subir aux Indiens.
Alors Jean-Marie Saint-Luc, donc il est plutôt bien vu par l'Église, plutôt bien vu par le roi Charles Quint, par l'empereur même, il est empereur, par Charles Quint qui décide donc par les lois nouvelles de supprimer le système des encomiendas. C'est un système assez compliqué, je crois. Oui. Qu'à la mort d'un encomiendero, c'est-à-dire d'un colon, les Indiens devaient être rattachés à la couronne et progressivement affranchis. Pour faire appliquer cette loi, d'ailleurs, il envoie Las Casas au Mexique, évêque du Chiapas. Hein.
C'est ça. Et toujours à propos de l'encomienda, il faut savoir que les colons étaient farouchement opposés à ces propositions de la couronne, puisque eux ont réclamé tout le temps, la pérennisation de l'encomienda par héritage. Il faut savoir aussi, c'est une petite parenthèse, que pour mettre les choses en perspective, c'est que la plupart des grandes familles, grands propriétaires terriens de l'Amérique coloniale et moderne, ce sont des descendants de ces conquistadors encomenderos,
qui sont insurgés contre cette loi. Du coup, Charles Quint va renoncer à cette suppression de la colonisation. Las Casas va rentrer définitivement en Espagne, où il continue de défendre les Indiens. C'est le cas en 1550, lors d'une controverse très célèbre qui oppose Las Casas à un théologien très connu de l'époque, Juan de Sepúlveda, qui fait appel à Aristote pour justifier l'exploitation des Indiens.
Aristote l'a dit très clairement. Certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres.
À votre avis, c'est ici le cas?
Oui, éminence. Ils sont esclaves par nature.
Ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes. Ils se peignent grossièrement le corps et adorent des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains. Tout indique que Dieu les a désignés à notre pouvoir. Ils n'ont aucune activité de l'âme, aucune idée de l'art.
Je ne veux pas laisser dire ça. Cortés lui-même écrivait au roi d'Espagne qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau sur ces terres. Il disait, quelques-uns d'entre nous se demandaient si ce que nous voyons là n'était pas un rêve.
Alors c'était Jean-Pierre Marielle et Jean-Louis Trintignant dans le film donc de la controverse de Valladolid qui s'est inspiré d'un fait réel a lieu en 1550. Cette
controverse. Sur deux années, elle s'est étendue. C'est bon, la fiction prime sur les faits réels, bien entendu, dans ce très beau film. Mais peu importe parce que le fond est vrai. Sauf que le thème même de la controverse, c'est plutôt le droit de conquête que le droit de savoir si les Indiens ont pas une âme. En fait, pour faire bref, c'est vrai que dans l'histoire des Indes et dans tous ses autres écrits, Las Casas veut prouver que les Indiens ne sont pas des hommes de la catégorie inférieure selon Aristote et qu'ils sont parfaitement capables d'être évangélisés. Et c'est entre autres choses que Sepúlveda niait, et évidemment avec lui les colons, parce que si ils étaient réputés impossibles à évangéliser, ça voulait dire qu'on pouvait les exploiter et en faire des esclaves. Le cercle vicieux est extrêmement simple à comprendre.
Vous savez, cette controverse, il n'en est rien sorti. On apprécie beaucoup ce que dit Las Casas, mais il n'y a pas eu de décision.
Les textes, oui, c'est peut-être un peu long d'entrer dans les détails, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'inapplication totale, quelle que soit, même s'il en était sorti vraiment des choses radicales, c'est absolument inappliqué sur le terrain.
En tout cas, il en est sorti peut-être quelque chose, une conséquence inattendue et assez effroyable au fond de la défense des Indiens par Las Casas. On écoute un dernier extrait de la controverse de Valladolid.
Les habitants des terres nouvelles, qu'on appelle les Indes, ils doivent être traités avec la plus grande humanité et justice.
Mais vous devez savoir que vous condamnez à la ruine tous les établissements espagnols.
Il existe peut-être une solution. S'il est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, doués d'une âme raisonnable comme nous. En revanche, il est sûr aussi que les habitants des contrées africaines sont bien plus proches de l'animal. Ces habitants sont noirs, très frustes.
L'Église ne s'opposerait pas à ce genre d'expédition?
Que voulez-vous qu'elle s'y oppose? Est-ce que le roi d'Espagne s'y oppose?
Éminence, cela risque de devenir très rapidement un grand commerce et de conduire à tous les abus.
À des guerres, à des révolutions.
J'ajouterai un codicille. Rendons grâce à Dieu d'avoir été parmi nous jusqu'au dernier moment. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Jean-Marie Salut, on a dit, c'est assez terrible de l'entendre, je crois que c'est assez authentique, que la conséquence inattendue, involontaire de la part de Las Casas de sa défense des Indiens, c'est que les colons se sont reportés sur les Africains, que c'est le début de la traite des Noirs.
Alors, il faut d'abord dire que Las Casas a passé le reste de sa vie à se repentir de cette conséquence inattendue et en tout cas involontaire de sa part, bien sûr. Il a effectivement proposé cela pour une simple raison. C'est à cause de la constitution beaucoup plus robuste des Noirs par rapport à celle des Indiens qu'il jugeait plus apte, les Noirs, à faire le travail qu'on exigeait des Indiens. Et les Indiens mouraient en particulier à cause de problèmes physiques. Le portage en particulier, on leur faisait porter sur des distances effroyables, des charges très lourdes. Ils n'y résistaient pas, le travail des mines. Et donc c'est pour soulager cette misère indienne, effectivement, qu'il n'est pas responsable. Ça, c'est, il est, disons qu'il a.
Il l'a condamné après, puisqu'il a bien mis des esclaves noirs.
Mais l'esclavage au XVIe siècle, c'est une réalité dans toute l'Europe. On peut rappeler que un pape précédent, Alexandre VI, avait reçu en cadeau d'un sultan 300 esclaves noirs que le pape n'avait pas du tout libérés. Il les avait distribués à ses cardinaux. Il y a aussi tout ce qu'on peut récupérer lors de conquêtes, comme au Canada. Par exemple, peuvent être esclavisés. Les Portugais font des razzias tous les ans sur les côtes de l'Afrique pour récupérer des Noirs. Donc l'esclavage est une réalité. C'est pas Las Casas qui l'invente.
Mais Jean-Marie Salut, est-ce qu'on peut pas dire qu'il est mort Las Casas à 82 ans, en 1566 à Madrid, peut dire que sa vie au fond a été un échec en quelque sorte. Après tout, la colonisation a continué. 90% de la population amérindienne a été décimée. C'est quand même considérable.
C'est peut-être un échec dans le sens où Don Quichotte est aussi un échec. Mais voyons la grandeur de l'homme et de ses idées et sa modernité. Et ce que le préfacier de cet ouvrage en espagnol appelle la nécessaire intelligence du cœur qu'il a démontré. Et je crois que ce n'est pas rien.
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de la mémoire, de souvenir de Las Casas en Espagne et en Amérique?
Alors en Amérique...
Je crois que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était en voie de béatification.
Oui, on est en train d'instruire à Séville son procès d'une éventuelle béatification, ce qui n'est pas sans poser de problème, bien sûr, mais c'est un retour des choses extraordinaires, parce qu'en Espagne, il a été un exilé pendant 3 siècles, hein, il faut bien le croire, puisqu'il était évidemment tenu pour un anti-espagnol total. En revanche, en Amérique, il est glorifié partout. Je voudrais citer dans le champ général, il y a un des deux seuls Espagnols qui trouve grâce auprès de Neruda, dans un très beau poème, c'est justement Bartolomé de Las Casas.
Las Casas, dont vous avez traduit et préfacé en collaboration avec Jean-Pierre Clément, l'histoire des Indes, publiée donc au Seuil. À lire également une biographie de Las Casas, écrite par le père André Vincent et publiée chez Talendier. Vous avez pu entendre des extraits du film La controverse de Valladolid, écrit par Jean-Claude Carrière et réalisé par Jean-Daniel Vérec, disponible en cassette chez Arte Vidéo.